Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle
et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cet actuel et lui.
Bonjour Guillaume, bonjour Aurélie.
Bonjour à vous deux et bonjour à nos auditeurs.
Oui, bonjour à vous. Bon appétit si vous êtes à table. Mais bon, si pour la rediffusion, ça ne marchera pas. Mais c'est pas grave.
Ça sera pour l'apéro, puisque oui. C'est le mardi à 18h11, donc c'est l'heure de l'apéro. Allez.
Bon, alors au programme aujourd'hui, Anne-Marie, de quoi vas-tu nous parler?
Alors, je vais vous parler des œuvres d'art qui ont été volées pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis.
Et toi, Guillaume, de quoi tu vas nous parler?
Alors, moi, je vais vous faire un petit peu un point sur l'actu télé.
Ça faisait longtemps.
Oui, ça faisait longtemps. Ça nous manquait.
Voilà.
Et toi, Aurélie?
Alors, moi, je vais être dans l'air du temps. Je vais faire une chronique politique.
Bien.
Attention.
Voilà.
Bon, alors on commence avec toi, Anne-Marie, et donc on va parler donc d'œuvres d'art qui ont été volées, c'est ça, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait. Alors à l'occasion de la sortie du film de George Clooney, vous avez dû en entendre parler, Monuments Men, je vous propose d'ouvrir un chapitre historique pour une fois. Durant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler a ordonné l'expropriation des biens privés appartenant à des Juifs, dont des œuvres d'art. À partir de juillet 1940, une organisation est chargée d'identifier et de collecter les biens culturels juifs et francs-maçons dans les territoires occupés par le Reich. Environ 22 000 biens culturels ont été ainsi spoliés en France en 4 ans. Aujourd'hui encore, certains ne sont pas retrouvés.
Pourquoi est-ce qu'Adolf Hitler a demandé qu'on récupère ses œuvres d'art? C'était un fan d'art?
Eh bien, il ne faut pas oublier que l'ancien dictateur voulait vivre de son art. Mais après avoir échoué par deux fois à l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, lui aurait assuré un emploi finalement, Hitler a malgré tout persévéré dans la peinture en vendant ses tableaux entre 1909 et 1914, donc avant la Première Guerre mondiale. Ses peintures sont longtemps restées cachées et furent tardivement rendues publiques. Hitler a quand même réussi à vivre confortablement grâce à des peintures alimentaires représentant des monuments. Selon le site Wikipédia, encore de nos jours, ses tableaux se vendent. Alors c'est ce que le site nous apprend, c'est qu'en 2006 et 2009, des aquarelles d'Adolf Hitler ont été vendues dans 4 ventes aux enchères. Alors ces ventes ont provoqué de vives polémiques médiatiques, mais aucune action en justice ne semble possible car les peintures représentent des paysages ou des fermes sans symbole politique. En 2006, une de ses œuvres de jeunesse avait été, par la maison allemande de vente aux enchères Wendler, vendue pour 11 000 euros. La même année, 21 autres de ses toiles avaient été achetées en Grande-Bretagne. En avril 2009, une série de 13 nouveaux tableaux ont trouvé acheteur pour 107 645 euros en Angleterre. Et le 25 avril, à Nuremberg, au lieu des grands rassemblements nazis, la maison Wendler a vendu 2 aquarelles attribuées à Hitler pour respectivement 14 000 et 18 000 euros. Donc finalement, des peintures qui se vendent quand même pas mal, qui sont quand même cotées.
Alors on peut penser qu'Adolf Hitler a volé tant d'œuvres d'art dans un but lucratif, justement?
Eh bien, pas du tout. Et c'est ce que nous explique Fabrice Delmeda, historien français, auteur du livre notamment « Une histoire de la propagande de 1900 à nos jours ». Hitler avait un plan pour créer un grand musée à Linz, ville autrichienne, avec environ 5000 œuvres. Il voulait que son musée rivalise avec les plus grands et les plus prestigieux musées du monde, tels que celui du Louvre. Mais ce musée n'a jamais vu le jour. Alors, les œuvres d'art intéressaient Hitler, mais ce n'est pas seulement une question esthétique. Adolf Hitler pensait que les grandes œuvres d'art possèdent en elles, et par la combinaison de signes qu'elles contiennent, une énergie particulière qui peut être inspiratrice et donne la force. Il y a différentes œuvres. Ce qu'Hitler considère comme l'art, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les classiques, les chefs-d'œuvre de l'ancien temps dépositaires d'une sorte d'étincelle très ancienne. Et il y a l'art contemporain, embrassé par des formes de culture décadentes qu'il considère comme des arts dégénérés, influencés par les Juifs et la modernité. Des œuvres qui doivent être détruites, car elles ont un pouvoir de corruption extrêmement grave. Et la corruption la plus grave, outre la corruption du sang, c'est la corruption de la culture. Les Allemands ont volé des Vinci, des primitifs flamands, des classiques français et même des œuvres de Gustav Klimt. Alors, c'est un peintre symboliste autrichien et il est l'un des membres emblématiques du mouvement Art Nouveau de Vienne. Cette inestimation n'est donc pas faisable. Ce qu'Hitler voulait voler, c'est le fondement de la civilisation. Donc, on est très loin du but lucratif.
Alors, en fait, c'est drôle parce que ce que tu nous dis là, c'est qu'il croyait tellement au pouvoir de l'art que pour lui, qu'il le considère positif ou négatif, il lui accorde quand même une forte valeur, quoi.
Exactement. Et puis c'est vrai que quand on parle de la Seconde Guerre mondiale et d'Hitler, on pense toujours, oui, et ce qui est normal, au camp de concentration, au nombre de morts, et moins aux œuvres d'art. Et pourtant, ça faisait partie aussi de sa propagande.
Alors justement, ces œuvres d'art là dont tu nous parles, certaines, tu nous dis, n'ont pas été retrouvées. Quels outils ont été mis en place pour retrouver les œuvres et puis peut-être retrouver les familles aussi?
Tout à fait.
Il y a les deux cas.
Exact. Alors déjà, il faut savoir que dès 1944, la France a créé une commission de récupération artistique, donc c'est la CRA, dont la mission est de récupérer les œuvres d'art afin de les restituer à leurs propriétaires. Ainsi, en 1949, déjà 74% des œuvres ont été restituées. Les œuvres restantes, sans propriétaire, ont été placées sous la garde des musées nationaux, sous l'appellation des musées nationaux de récupération, les MNR. Dans les années 90, avec la chute du mur de Berlin, une nouvelle dynamique émerge en France pour progresser dans la recherche des œuvres spoliées. La France signe les accords de Washington sur les avoirs juifs durant la période de l'Holocauste, aux côtés de 40 autres pays qui s'engagent à mettre en place de bonnes pratiques dans ce domaine, à savoir développer les recherches, harmoniser les procédures nationales des restitutions. Aujourd'hui, une sénatrice du Maine-et-Loire, Corinne Bouchoux, a travaillé sur un rapport concernant les œuvres spoliées durant la Seconde Guerre mondiale. Son rapport n'a pas vocation à se traduire en un dispositif législatif, selon l'élu. Ce qu'elle veut, c'est donner une nouvelle impulsion à la recherche de provenance. Voici quelques-unes de ses propositions, je crois qu'il y en a 9 en tout. Mettre en œuvre rapidement une recherche systématique de provenance des œuvres spoliées avec certitude ou forte présomption, d'environ 163 œuvres. Rappeler également les principes de Washington aux directeurs et conservateurs des musées de France, c'est une petite piqûre de rappel. Et puis aussi réaliser un répertoire complet des archives relatives aux œuvres spoliées et le rendre accessible en ligne. La tâche reste encore fastidieuse, on s'en doute. Près de 70 ans après la fin du régime nazi, des milliers d'œuvres d'art n'ont toujours pas été restituées, faute d'avoir réussi à identifier leurs propriétaires ou leurs ayants droit, puisqu'aujourd'hui, on se doute bien que les propriétaires sont morts. On ne sait pas forcément s'ils ont eu aussi des héritiers. Il se pourrait qu'il y ait plus encore aujourd'hui plus de 2000 œuvres d'art exposées dans les musées allemands, et ce parfois sans qu'il soit mentionné qu'il s'agit d'œuvres volées, ou bien tout simplement ces œuvres dorment dans des réserves.
Alors, tu nous as parlé de la création de la commission de récupération artistique et des musées nationaux de récupération. Mais il ne faut peut-être pas oublier non plus le rôle de personnes bénévoles, dévouées, qui ont aussi un peu risqué leur vie pendant la guerre pour sauver des chefs-d'œuvre.
C'est d'ailleurs l'objet du film de George Clooney dont je vous parlais en préambule, Monuments Men. Il nous rappelle qu'effectivement, un groupe de bénévoles a risqué sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale afin de récupérer les œuvres d'art volées par les nazis en Allemagne et dans tous les territoires occupés. Ils étaient à l'époque 345 de 13 nationalités différentes. Alors certains étaient architectes, d'autres conservateurs, artistes ou encore historiens d'art. Les Monuments Men ont récupéré plus de 5 millions d'œuvres et les ont restituées. Vous l'aurez bien compris, cette chasse au trésor du XXe siècle qui est sortie donc en salle le 12 mars dernier, c'est une histoire vraie, s'inspirant de faits réels. Mais pour tout vous avouer, la presse est loin d'être élogieuse avec le film de George Clooney. Selon l'Express, il n'y a aucun enjeu, pas de suspense, pas de plaisir, pas de tension, pas d'aventure. D'après Marianne, c'est une monumentale déception. Pourtant, ce film a le mérite de nous plonger dans le passé et de rendre hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes qui, au péril de leur vie, ont sauvé des œuvres d'art. Et puisqu'il reste encore aujourd'hui des œuvres cachées, on a le droit de fantasmer.
Oui, fantasmer, c'est ce que fait Steve Berry avec un roman, Le Musée perdu, que tu as lu, je crois.
Exactement, c'est un formidable roman d'aventure avec en toile de fond une quête haletante, mais surtout périlleuse. Deux chercheurs de trésors, un avocat et une juge, veulent retrouver la 8e merveille du monde, la chambre d'ambre, volée par l'armée nazie en 1945. Et ils sont prêts à tout, même à tuer ou à se faire tuer, tout dépend du personnage. Le lecteur suit les traces de cette œuvre d'art volée et découvre tout ce qu'un homme est capable de faire pour mettre la main sur une œuvre d'art. Attention, ce n'est pas un roman historique, le musée perdu de Steve Berry, même s'il pioche des éléments dans des faits réels. En tout cas, Sachez que la chambre d'ambre est une pièce au mur recouvert d'éléments sculptés dans de l'ambre authentique qui a été offerte par le roi de Prusse Frédéric Guillaume au premier tsar de Russie Pierre le Grand en 1716. Pendant presque deux siècles, elle fut installée au palais Catherine près de Saint-Pétersbourg. Plusieurs fois rénovée, elle avait une surface de 55 mètres carrés et contenait plus de 10 tonnes d'ambre. Volée par les nazis en 1941, elle est considérée comme perdue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une reconstitution à l'identique de la chambre d'ambre a été inaugurée en 2003, après presque 30 années de travaux au palais Catherine. Alors, dans le livre Le musée perdu de Steve Berry, c'est vrai que l'auteur se permet quelques libertés quant au sort de la chambre d'ambre, mais peu importe, finalement, c'est un excellent livre que je vous conseille de dévorer.
Ah ben merci Anne-Marie.
Donc un conseil film, un conseil lecture.
Super. Voilà, alors c'est vrai que pour le film, je ne l'ai pas encore regardé, en toute honnêteté, puisqu'il est sorti le 12 mars dans les salles obscures, mais pas encore à Mende. Mais c'est vrai que moi, ça me titille, même si la presse, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas élogieuse. Voilà, le sujet m'intéresse et j'ai quand même bien envie de voir George Clooney avec Matt Damon et ses copains.
Kate Blanchett qui...
Effectivement, ça fait envie. Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ?
Rien à voir avec le sujet, je vous propose d'écouter Supertramp avec sa chanson Don't Leave Me Now.
Thank you.
tu,
elle
et lui.
Et bienvenue dans cette deuxième partie d'Actuel et lui. Et Guillaume, justement, tu as dit que tu allais nous faire un petit point sur la chronique télé.
Oui, oui, on va faire un petit peu le tour de la QTélé de ces dernières semaines.
Donc, tu as regardé le petit écran et tu nous donnes des nouvelles de la télé. On va peut-être commencer d'ailleurs par Top Chef.
Oui, on commence avec le concours de cuisine de M6 qui me fait toujours rêver, hein, parce que j'avais écrit « nous », mais vous m'avez dit non. En tous les cas, voilà.
Mais on peut t'expliquer pourquoi.
J'ai dit que moi, ça ne me faisait plus rêver. Ils me prennent la tête avec leur connerie.
Voilà, donc effectivement, effectivement le concours séduit de moins en moins les téléspectateurs cette année, avec des audiences en demi-teinte. Alors déjà lié sans doute à la longueur du programme, hein, parce que c'est vrai que ça commence à 21h et ça finit pas avant 23h45. Bon voilà, mais c'est vrai. Et puis bon, sans doute aussi un peu lié à la personnalité des candidats auxquels on s'identifie finalement, où on n'a pas forcément envie d'être très très en affinité, on va dire, avec eux.
Bah, ils agacent quand même cette année, ils sont assez hautains. C'est vrai que mes chouchous, c'est ce que je disais tout à l'heure, Jordan, qui était tout mignon, celui qui avait 18 ans, il a été éliminé assez rapidement. Et les autres sont pas forcément très sympathiques.
Enfin, nous sommes caricaturaux. Pas... Voilà, à chaque fois, je pense qu'on a dû tirer trois éléments ou trois phrases qu'ils ont dit qui sont montées en épingle. Et alors maintenant, on a vraiment des types. Le dépressif,
oui, c'est vrai
première, comment tu l'appelles, la première de la classe,
voilà, Anne-Cécile,
la mini qui nous gonfle tous là, avec son campagne.
Oui, non, mais effectivement, c'est vrai que voilà. Donc le problème, c'est que M6 encaisse toutes ces critiques, mais comme l'émission a été tournée cet été. Voilà, pour justement avoir des produits frais de l'été, c'était l'objectif. Bah, c'est vrai que ça pose quand même quelques soucis pour réagir vraiment, puisque à part refaire le montage de l'émission,
ce qui coûterait cher peut-être.
Oui, et puis ce qui est pas forcément très très pratique. Je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup plus de choses différentes à proposer, quoi.
On va faire le grand écart. Tu nous as parlé de cuisine, maintenant tu nous parles de politique avec les soirées électorales.
Oui, les soirées électorales et dimanche soir, France 3 a réalisé plutôt une bonne performance d'audience pour le premier tour de la soirée électorale, en réunissant de 19h à minuit plus de 3,5 millions de téléspectateurs, soit 16% du public. Alors la Une apparaît leader bien sûr sur son avant-soirée, hein, présentée par Gilles Boulot et Claire Chazal. Mais en réalité, elle est dépassée en frontal par France 3, puisque de 19h23 à 21h21, France 3 réunit 4,4 millions de téléspectateurs, soit 17,4% de part d'audience. Et vraiment un très bon score national, confirmé aussi au niveau régional, puisque France 3 s'est placé en tête avec plus de 20% de part d'audience dans ces régions. Puisque le dispositif, hein, pour le préciser, c'était un quart d'heure national et trois quarts d'heure en région, et comme ça pendant tout le début de la soirée jusqu'à 23h, où il y avait à ce moment-là un grand soir 3 qui faisait la conclusion de la soirée. Voilà. Donc
oui,
c'était.
C'est vrai que, en même temps, ça semble un peu logique dans la mesure où on veut savoir les résultats de son coin.
Voilà, mais c'est.
Et France 3 joue complètement sa carte.
Justement. Voilà, exactement. C'était un très bon positionnement pour France 3. Et puis donc France 2 qui avait, par contre, c'était aussi assez bien structuré, puisque France 2 avait plutôt une entrée justement avec les enjeux nationaux qui étaient traités dans son émission dans le même format que celui de TF1. Donc c'est vrai qu'au niveau du groupe France Télévisions, il y avait quand même une certaine complémentarité, c'était assez intéressant.
D'accord, et tu voulais aussi évoquer le décès d'une figure marquante des séries américaines ?
Et oui, il était connu pour ses rôles sur le petit écran comme sur le grand. Le comédien américain James Rayburn est décédé vendredi à son domicile du New Jersey. Après avoir subi une semaine et demie de soins, l'acteur a succombé à un mélanome qui lui a été diagnostiqué en 92. Ces dernières années, James Rayburn avait multiplié les seconds rôles à la télévision. Il a ainsi campé l'agent spécial Reese Hugh, directeur du FBI dans les quatre premières saisons de FBI du très spécial, avant de jouer le père de Claire Danes dans Homeland. Voilà, depuis 2011. Donc voilà, ça vous voyez peut-être sa tête.
Et encore un grand écart, puisque là tu vas nous parler.
C'est très varié.
C'est ça, il n'y a pas de transition.
Non, il n'y a pas de transition.
Mais d'ailleurs, on va mieux comprendre, puisque tu vas nous parler de télé-réalité et de Secret Story, je crois.
Et oui, c'est cette question qui, je suis sûr, vous empêche de dormir depuis l'été dernier.
C'est sûr.
Benjamin Castaldi présentera-t-il la nouvelle saison de la télé-réalité de TF1 cet été ? Alors, le blog de Jean-Marc Morandini a annoncé que Benjamin Castaldi aurait fait part à TF1 de son intention de ne pas animer une huitième saison de Secret Story. Alors, sur Pure People, Benjamin Castaldi, lui, dit qu'il n'aurait pas encore pris de décision définitive. Et l'animateur, donc, de 43 ans, demanderait en fait à TF1 de s'engager à lui confier deux nouvelles émissions avant d'accepter définitivement de repartir pour une nouvelle saison de Secret Story. C'est vrai que il est un peu sous-employé aujourd'hui sur TF1.
En même temps, il nous manque pas, hein.
À l'époque où il présentait Nouvelle Star, il était quand même assez, enfin, il était assez
sympathique. Mais il a perdu sa cote quand même. Oui. Effectivement, à l'époque de Nouvelle Star, il était plutôt sympathique. Bon, aujourd'hui, Benjamin Castaldi, effectivement, il a son étiquette en plus.
Vu qu'il ne présente que Secret Story, c'est sûr que ça, voilà. Et donc, pour obtenir gain de cause, l'animateur peut en tout cas compter sur les rumeurs insistantes le disant fortement courtisé par M6. Pour prendre les commandes donc de Rising Star, le nouveau télécrochet événement attendu pour la rentrée prochaine. Donc ça met un petit peu la pression sur les dirigeants de TF1.
Et quoi de neuf du côté des infos ?
Alors du côté des infos, France Télévisions, ça fait très longtemps, on rêve d'avoir une chaîne d'infos en continu. Et donc le groupe a annoncé avoir lancé un service équivalent via l'application de son site France TV Info sur la télévision connectée. Donc ça ne concerne pas forcément tout le monde, hein, puisque c'est vraiment la télévision vraiment du futur d'une certaine façon. Mais le groupe public, qui proposera un JT permanent avec une compilation de 12 minutes de sujets vidéo fabriqués par les différentes rédactions nationales, régionales et outre-mer du groupe France Télévisions. Mais ce flux de vidéos proposé aux téléspectateurs connectés sera mis en jour en permanence. Et donc le sommaire du JT évoluera au fil de la journée. Et donc le directeur général du groupe, Bruno Patino, en charge des programmes, mais aussi des activités numériques, a indiqué qu'il espérait que ce nouveau service serait aussi rapidement disponible sur les box ADSL des fournisseurs d'accès à Internet. Comme ça, on pourrait aller sur une chaîne et avoir directement le journal, le dernier journal de France Télévisions. Voilà.
France Télévisions toujours avec France 2 et son gros problème d'access prime time de France 2, enfin juste avant
oui.
Le journal.
Je vous avais déjà parlé de Sophia Aram et de ses difficultés dans Jusqu'ici tout va bien. Et puis donc France 2 a fait appel à une de ses stars pour essayer de régler le problème avec Laurent Ruquier qui est arrivé pour rebooster ce moment crucial pour la chaîne, à la fois pour les recettes publicitaires, puisque c'est encore avant 20h, donc où il peut y avoir de la pub, mais aussi pour fidéliser le public en vue de la grande messe du journal de 20h, qui est quand même un élément important dans une grille de télé et pour l'audience. Donc c'est ainsi que l'émission Pour tous a été mise à l'écran, une émission finalement assez intéressante avec de l'interactivité avec le public, qui avait des tablettes, qui pouvait voter, qui pouvait répondre à des questions fermées par contre, et bon, il y a une team de chroniqueurs importés de l'émission de Ruquier sur Europe 1, alors bon, les chroniqueurs c'était un petit peu lourd.
C'était sans intérêt, et le programme était vu, déjà revu, tu vois, enfin...
Le fait de faire participer le public vraiment, c'était quand même nouveau, enfin, on l'a pas vu.
Le public présent.
Oui, et puis t'as vu le genre de questions en plus, non attends,
je trouve que ça s'est beaucoup amélioré entre les premiers numéros et les derniers numéros, puisque l'émission a quand même, moi je trouve, a bien évolué pour arriver à un résultat qui était quand même regardable, mais bon voilà, qui était confronté à une concurrence immense, donc ça s'est arrêté.
Et puis quand t'as pas un produit de qualité, je suis navrée, concurrence ou pas, t'y arrives pas tout simplement.
Bon voilà, donc Laurent Ruquier a réagi en considérant que le public n'avait pas envie de voir ce genre de programme dans cette case. Peut-être que les gens, peut-être que les gens qui veulent des débats de fond avant 20h, bon c'était pas non plus des débats de fond, voilà, ne sont pas si nombreux, ou ceux qui m'écoutent sur Europe 1 n'ont pas envie de me voir juste après à la télé, ça sans doute. Hein. Et on croit l'animateur, une programmation à partir de septembre aurait pu aider le rendez-vous à s'imposer face aux puissants TF1 et France 3, ainsi que face au talk fédérateur de la TNT. Ça c'est certain que le fait d'arriver en plein milieu, en plus d'avoir une coupure de 15 jours pour les Jeux Olympiques, ça a été quand même un peu compliqué.
Oui, puis ce qui marche surtout en ce moment, on le voit bien sur TF1, ce sont quand même des jeux, c'est du divertissement. Peut-être que les gens, effectivement, ont envie de ça à la fin de la journée.
Mais c'est ce qu'il dit, c'est qu'il voulait se mesurer justement à Money Drop sur TF1 et il estime que l'émission Pour tous n'avait pas à rougir. Mais bon voilà, après c'est sûr que la concurrence par exemple avec le Grand Journal ou avec des stars qui se bousculent sur le plateau du Grand Journal, bon, c'est sûr que c'est difficile d'être concurrentiel quoi. Bon, après, donc ils ont fait un arrêt assez rapide. Hein, ça s'est décidé un vendredi soir et le lundi, ils n'étaient plus à l'antenne. Donc il a fallu mettre en place une réponse rapide. Et donc, ils ont rétabli l'accès de transition qu'ils avaient proposé en janvier, c'est-à-dire à 18h des best-of dont ne demande qu'à en rire. qui précède deux numéros de N'oubliez pas les paroles. Alors, ça a été marrant d'ailleurs parce que avant-hier, donc lundi soir, est passée l'émission qui avait été prévue pour le 1er avril, dans lequel il y avait plein de blagues. Et donc, ils ont recoupé des bouts pour pas, enfin, voilà, pour que ça se voit pas trop, mais comme il y avait des blagues dans la mécanique de jeu avec des paroles qui avaient été triturées, etc., forcément ça paraissait un peu bizarre, mais voilà, donc c'était une petite anecdote assez marrante. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que à partir de début avril, les best-of de On demande qu'à en rire laisseront place à de nouveaux numéros inédits. Par contre, il y aura un nouvel animateur, puisqu'a priori ça ne sera pas Laurent Ruquier. Et ça ne sera pas Jérémy Michalak non plus, qu'il avait présenté l'an dernier. Donc à voir, on verra qui prendra la relève. Mais bon, à 18h, ce n'est pas forcément une mauvaise chose de retrouver ce programme-là. Enfin, vraiment, à 19h, ce n'était sans doute pas un bon placement. Et puis, retrouver Nagui, sa bonne humeur et les chansons juste avant le journal. Je trouve ça assez sympathique.
Sinon, on leur propose une émission, non ? Ça ne vous dit pas, Aurélie ?
À la télé, non.
C'est-à-dire qu'il faudrait un peu changer de métier, quoi.
On a bien proposé à Actuel et lui, et ça marche.
Ça marche.
Nous sommes troisième.
C'est ça.
Voilà. Nous sommes sur le podium plus en termes d'audience.
Plus pour longtemps, on va les battre. Le mag. Alors, il y a quelques jours, c'était la diffusion du concert des Enfoirés. Est-ce que l'audience a été au rendez-vous ?
Eh oui, alors les Enfoirés, c'est toujours un record habituellement dans les audiences. Et l'audience à battre était de 13,6 millions de téléspectateurs, 53,7% du public. Donc c'est l'audience qui avait été réalisée l'année dernière pour l'édition 2013 des Enfoirés. Et c'était le record d'audience historique du programme. Donc TF1 s'est quand même largement imposé en tête des audiences. Donc avec le concert annuel des Enfoirés au profit des Restos du Cœur, l'édition qui était baptisée « Bon anniversaire les Enfoirés » a réuni 12,2 millions de téléspectateurs en moyenne jusqu'à 23h45. Selon Médiamétrie, bien sûr, plus d'un téléspectateur sur deux était devant TF1, 52,2 de part d'audience. Mais ce score est inférieur à celui des trois précédentes éditions, une chute qui s'explique notamment par la météo printanière à l'époque, parce que là, ça s'est quand même bien dégradé. Il y avait 2 millions de personnes en moins devant la télévision que l'année dernière, donc forcément, ça a un impact sur la présence devant les Enfoirés. C'est cependant, pour l'instant, la meilleure audience de 2014, toutes chaînes confondues. Voilà. Et c'est aussi une audience qui colle beaucoup avec les cibles commerciales, on va dire, pour vendre de la pub, donc les ménagères de moins de 50 ans et les 15-24 ans.
Tu nous as parlé tout à l'heure de Top Chef, on va rester justement sur M6, puisque tu vas nous parler d'un nouveau jeu.
Oui, je vais vous parler d'un nouveau jeu, donc il y aura Rising Star, qui est la nouvelle télé-réalité, nouveau télé-crochet qui va avancer, mais la chaîne a aussi lancé un nouveau jeu, qui s'appelle « Qu'est-ce que je sais vraiment ?», animé par Karine Lemarchand et Stéphane Plaza, et qu'on connaît tous les deux dans leurs émissions, et puis qui ont déjà travaillé ensemble, notamment sur On ne choisit pas ses voisins. Vous savez, c'est le programme où ils se déplacent en camping-car et où vont régler les problèmes de voisinage. C'est assez, assez sympathique.
Non, c'est pathétique.
C'est ça. Ce quiz adapté donc d'un format néerlandais, mis sur l'interactivité, là aussi. En même temps, en même temps que les 300 étudiants et 4 invités, les téléspectateurs sont invités à jouer via l'application Sisplay et à comparer leurs résultats avec les personnes présentes sur le plateau. Qu'est-ce que je sais vraiment ? Ça articule autour de 6 séries de questions. En finale, l'étudiant et la célébrité qui ont obtenu le plus de points s'affrontent pour gagner de l'argent pour une association. En cas de victoire d'un étudiant, celui-ci remporte 25% de la somme et une tablette tactile, tandis que via l'application, les téléspectateurs tenteront de repartir avec une tablette.
Et tu as essayé de jouer ?
Alors, j'ai pas essayé de jouer. Par contre, pour la première, il y a eu donc deux numéros. Et pour la première fois, le service Sisplay a été saturé et il y a eu un vrai engouement de ce jeu connecté. Donc c'est quand même plutôt une opération assez réussie pour M6, au moins sur cette nouvelle façon de vivre la télé avec ce qu'on appelle le deuxième écran.
Et puis ils ont choisi aussi deux animateurs qui ont le vent en poupe.
Oui, donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas pris, des stars sur le retour, ils ont pris leur star de leur antenne, quoi.
Alors on termine avec un changement de stratégie pour France 4, la chaîne revoit son positionnement.
Et oui, les dirigeants de France Télévisions ont levé le voile sur la nouvelle identité de France 4. Comme annoncé il y a plusieurs mois, la mini-généraliste du service public va très prochainement se positionner pour devenir une chaîne jeunesse s'adressant au millénium. Mm-hmm. Voilà, donc les milléniums, ce sont les téléspectateurs nés après le passage au troisième millénaire. D'accord. Il n'y a pas nous du tout.
Qui ont 14 ans. Donc.
Voilà, c'est ça.
Moins de 14 ans.
Moins de 14 ans. Cette nouvelle identité sera symbolisée dès le 31 mars, donc c'est tout bientôt, par un changement d'habillage et surtout une nouvelle grille de programme. Et alors cette grille de programme, vous allez voir que France Télévisions fait du recyclage et elle sera, bon, elle sera hybride avec deux grands temps. La journée s'adressera aux enfants, tandis que la soirée s'adressera plutôt aux jeunes adultes. Donc on a peut-être une chance pour la soirée, je pense. La chaîne TNT du service public a visiblement souffert des actuelles restrictions budgétaires du groupe France Télévisions. Car en journée, elle va accueillir deux marques jeunesse d'autres chaînes du service public. Alors, il va y avoir Ludo de France 3, qui débarquera dès la fin du mois sur la grille de France 4, tous les jours de la semaine de 6h30 jusqu'au début d'après-midi, puis de 17h à 18h30. Rassurez-vous, Ludo, c'est pas notre journaliste.
Voilà. Lui et puis, aussi veut faire de la télé.
C'est ça. Entre les deux, France 4 fera appel aussi à une autre marque jeunesse du service public, les Zouzous de France 5. Donc, ce sera une journée dessin animé en fait sur France 4. Voilà, c'est ça qu'on va retrouver.
Donc, il y aura concurrence avec Gulli.
Ben un petit peu oui, mais comme France Télévisions s'est retiré de Gulli puisqu'ils en étaient partenaires, c'est désormais une chaîne uniquement à la Gardère.
C'est ça, donc ils seront voilà, en effectivement, concurrence puisqu'ils tout à jouent sur le même tableau. Hein.
Tout à fait. Alors, ce qu'on trouvera aussi dans la grille, c'est de l'animation inédite, comme Strange Hill Height. Aïe, voilà, j'arrive pas à le dire, voilà, c'est pas grave.
Et il se moquait de mon Spotify.
Oui, c'est ça. Mais aussi des programmes courts de décryptage et d'actualité à destination des jeunes téléspectateurs, tels qu'un flash info distillé tout au long de la journée. Donc, ce sera peut-être aussi intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire là-dessus, puisqu'il y a quand même toute la rédaction de France Télévisions derrière, et puis bon, peut-être des choses un peu orientées réseaux sociaux, net, etc. Voilà. En soirée, donc, la chaîne s'adressera aux adolescents et peut-être un peu plus, parce que tout à l'heure, c'était des jeunes adultes. Donc, l'offre sera constituée de séries, dont certaines inédites, mais aussi de films, de magazines et de documentaires. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un magazine assez sympathique sur France 4 et qui, je pense, va rester dans cette grille. C'est le magazine Off. Je ne sais pas si vous avez vu sur les coulisses d'un certain nombre d'activités qui, justement, avaient déjà une écriture très, très jeune et, enfin, voilà, et effectivement un ton tel que le promet la patronne de la chaîne, irrévérencieux et complice. Voilà. Et donc, il y aura aussi donc, des programmes d'animation, destination des jeunes adultes, dont un manga chic. Voilà. Reste maintenant à savoir l'impact qu'aura cette nouvelle grille sur le public. Les audiences de la chaîne devraient souffrir en journée avec cette nouvelle offre. Les dirigeants de France Télévisions ont préféré prévenir. Nous ne cherchons pas les audiences des 4 ans et plus sur France 4 en journée. Sage précaution.
Enfin, avec les Zouzous, ils vont en cartonner le mercredi. Hein.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils vont rentrer en concurrence avec les chaînes qui les diffusaient déjà au sein même du groupe, quoi. Donc France 3 et France 5.
Et qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ?
Alors, je vous propose d'écouter Cats and Trees, donc le groupe que nous avons accueilli à Mende l'an dernier pour 48e de rue et sur 48FM dans les faits sonores, et dont la musique vient d'être prise pour la pub télé d'une très grande marque de fast-food, hein, la plus grande, et donc on écoute Wichita.
I'm going to Wichita.
Elle
et lui. Et voilà, on se retrouve pour la troisième partie de cet actuel et lui, et c'est donc Aurélie qui s'y colle, et c'est un peu une chronique, un peu instruction civique, non, c'est ça ?
C'est ça, une chronique, une petite chronique politique, allez, j'ai prenez, dit, je me lance.
Prenez vos cahiers, voilà. C'est parti.
Ou alors tout le monde va bien faire la sieste d'ici 5 minutes, après déjeuner ou avant dîner, pour ceux qui écouteront la rediffusion. Donc effectivement,
si vous êtes sur la route...
Ah oui, n'écoutez pas, éteignez la radio.
S'il y a des accidents, Aurélie, ça sera de ta faute. Hein.
Voilà. Surtout que vous avez entendu ce matin aux infos, il faut faire attention de ne pas s'endormir au volant. Donc, vous l'avez remarqué, on parle beaucoup d'élections, d'abstention, de vote, de choix, mais aussi de ras-le-bol politique ces derniers temps. Alors, je me suis demandé un peu comment est-ce qu'on en était arrivé là. On vit ici et aujourd'hui en démocratie, avec un fonctionnement particulier, mais pourquoi en fait ?
Bon, alors on va commencer par un petit peu de vocabulaire politique.
Oui, et pour commencer, comme j'aime bien les mots et les dictionnaires, j'ai cherché en fait quels sont les mots qui décrivent les formes de gouvernement possibles, qu'elles soient réelles, possibles, imaginaires. Et on commence avec une petite approche étymologique. Donc, même si elles sont souvent différenciables, en fait, c'est toujours des combinaisons de préfixes et suffixes, un peu toujours les mêmes. Donc, avec archi, qui veut dire commandement, qu'on retrouve très souvent, donc comme dans anarchie, où là, c'est pas de commandement. Pas de commandement du tout, ou kratie, qui vient du grec kratos et qui veut dire force et pouvoir, comme dans démocratie avec le pouvoir au peuple. Alors en fait, il y a quand même une exception, c'est république qui vient, elle, du latin, res publica, et qui veut dire affaire publique ou plus littéralement la chose du peuple.
Alors justement, est-ce que démocratie et république sont forcément complémentaires ?
Alors en fait, ta question met le doigt sur la différence entre le régime politique et le système dans lequel il s'applique. Donc le système comprend le régime politique, hein, ou on peut dire aussi système de gouvernement. Il y a aussi à l'intérieur donc, de ce système la structure économique, l'organisation sociale, c'est donc plus large. Donc pour te répondre, une république n'est pas forcément démocratique. Des systèmes politiques, il en existe d'autres, comme la monarchie, le féodalisme, le totalitarisme ou l'autoritarisme par exemple.
L'autoritarisme, c'est le mode de fonctionnement d'actuel et lui.
Voilà, c'est ça. Puisque aujourd'hui, Guillaume a imposé l'ordre de passage.
Et il existe de nombreux systèmes possibles. Alors, comment s'y retrouver ?
Alors oui, c'est sûr, hein, il existe de nombreux systèmes. Donc, il est habituel de les classer en fait, entre régime démocratique et régime autoritaire. Mais dans la pratique, ce n'est pas aussi tranché. Donc, j'ai été voir un petit peu du côté des philosophes et des penseurs, en commençant avec Platon, qui distingue en fait 5 systèmes politiques qui correspondent pour lui à 5 formes d'âme humaine. Donc dans La République, son livre, il énonce la monarchie, qui correspond donc à l'aristocratie, la timocratie, qui correspond à la recherche des honneurs en fait pour lui, l'oligarchie, où là on va plutôt rechercher les richesses, la démocratie ou la tyrannie, où là les choses reposent plus sur la violence. Aristote, lui, dans sa Politique, donc ça c'est le titre de son œuvre, propose en fait un classement selon 2 critères. Le nombre de souverains, alors c'est la traduction littérale, il faut comprendre dirigeant, et la finalité de la constitution. Il permet en fait la discrimination entre les constitutions dans lesquelles le pouvoir existe pour lui-même, ce qu'il va appeler les constitutions déviées, et celles où il est exercé pour l'ensemble de la communauté. Pour lui, c'est les constitutions droites. Donc, dans les constitutions droites, le souverain gouverne en vue de l'avantage commun, donc pour le bien de tous. Dans les constitutions déviées, il gouverne pour son intérêt particulier. Ce qui fait qu'avec ces critères, quand on les croise, bon, il faut imaginer une sorte de petit tableau, hein, au sein des constitutions droites, donc qui ont. Prenez votre feuille, voilà.
Sauf si on est en voiture.
Ou si vous avez votre fourchette, bon, faites des petits tas de purée. Donc, on a les constitutions droites qui diffèrent selon le nombre de dirigeants. Donc, la royauté, on a un seul dirigeant. L'aristocratie, un petit groupe. Et le gouvernement constitutionnel, un groupe un peu plus important. Et si on est dans le cadre de constitutions déviées, donc on a la tyrannie en face de la royauté, c'est-à-dire qu'on a toujours un souverain unique, mais au lieu de travailler pour le bien de tous, il va travailler mais pour son propre intérêt. L'oligarchie en face de l'aristocratie, on a toujours un petit nombre, mais cette fois qui va chercher son propre profit. Et la démocratie face au gouvernement constitutionnel, dans lequel, pour Aristote, en fait, les gens cherchent leur intérêt propre et pas le bien de tous, en fait.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres systèmes ?
Si, bien sûr, et on peut aller voir un petit peu du côté des sociétés traditionnelles ou extra-européennes. L'anthropologie au XXe siècle nous a donné à voir des sociétés assez différentes. Bon, je ne vais vous citer qu'un seul exemple parce que vous allez tout de suite voir pourquoi il me plaît. Donc, c'est le matriarcat, donc le pouvoir des mères. On le retrouve donc chez les Touaregs en partie, chez les Iroquois, chez les Trobriandais, c'était une des premières civilisations extra-européennes basée sur le don, qui a été étudié par un sociologue qui s'appelle Malinowski, ou chez certaines populations comme celle des îles Comores ou les Indiennes du Kerala. On peut aussi regarder du côté de la sociologie avec trois types idéaux de gouvernement politique et d'autorité, donc qui sont proposés par Max Weber, qui lui en fait distingue donc d'abord la domination charismatique, donc qui est à la fois familiale, religieuse, qui repose sur le charisme d'un individu, d'une famille, la domination traditionnelle, donc avec le patriarcat, le féodalisme, où là c'est le poids de l'habitude, hein, ou alors la domination légale, comme dans le cas de l'État moderne, avec une bureaucratie forte.
Alors bon, après la théorie, peut-être du concret, tu as des exemples à nous donner ?
Eh oui, alors du concret, pourquoi pas ? On va commencer en fait par une histoire. Notre histoire, finalement. Donc, celle de la fondation de Rome. Je suis sûre que vous avez tous quelques petits...
Romulus et Rémus.
Voilà, quelques petits souvenirs de sixième. Donc, tout commence effectivement avec Rémus et Romulus. Romulus définit le contour de Rome à l'aide d'une charrue. Il devient donc un tireur de traits, un rex, qui sera traduit pour nous ensuite par roi. Donc, Rome, c'est d'abord une monarchie, jusqu'à ce qu'un des rois de Rome, Tarquin le Superbe, se fasse chasser par la population parce qu'il était trop tyrannique. Et donc, on est en 509 avant Jésus-Christ et la République romaine est née. Donc, les institutions de la République ne sont en fait, à ce moment-là, qu'une évolution des institutions existantes. Le Sénat, qui est en place, pour éviter que le pouvoir absolu royal, qu'on appelle l'impérium, vous voyez, ça a donné aujourd'hui en français toujours tout un tas empereur, tout un tas de mots qui ont un rapport avec ce pouvoir absolu. Donc, pour éviter que cet impérium ne soit... entre les mains d'un seul tyran, c'est le Sénat qui va le répartir en fait entre les différents magistrats qui seront chacun chargés de tâches particulières. Et à la tête de l'État, il y a quand même deux consuls qui ont les pouvoirs, donc toujours cet impérium, et une décision ne pourra être prise que quand les deux consuls sont du même avis. Mais voilà, déjà en cas de guerre ou de problème pour lesquels on a besoin d'une prise de décision rapide, les consuls vont pouvoir élire un dictateur, donc c'est là le mot au sens latin du terme, hein, donc, qui reçoit les pleins pouvoirs de l'impérium. Mais pour éviter d'en faire un nouveau tyran, en fait, ces pouvoirs vont être limités à 6 mois.
Donc tout ceci, c'est bien, mais tout le monde sait que la République romaine est devenue l'Empire romain.
Effectivement. Malgré les garde-fous qui ont été mis en place dans la République pour éviter la tyrannie, ça n'a pas fonctionné. En fait, c'est dû à un accord, le triumvirat, entre Jules César, Pompée et Crassus. Donc Jules César réussit à se faire nommer dictateur. Et puis, comme il est malin, il fait prolonger son mandat de 6 mois à 10 ans. Puis de 10 ans à dictateur à vie. Voilà, donc ça montre bien la fragilité du système. Mais cependant, vous savez que la réaction ne s'est pas fait attendre et que Jules César a été assassiné. Cependant, c'était un peu le mal était fait, quoi. L'Empire était déjà en marche et ses successeurs, sont devenus les Augustes.
L'Empire, puis la monarchie en Europe, tous ces systèmes ont quand même fonctionné pendant plusieurs siècles.
Oui, effectivement. Mais les différences entre les classes deviennent de plus en plus marquées entre l'aristocratie riche et les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. Les idées du siècle des Lumières aussi font leur chemin. Les États-Unis d'Amérique déclarent leur indépendance et en 1789, la Révolution française éclate. Le but de cette révolution, c'était quand même d'abolir justement les privilèges de classe. Tous les citoyens naissent égaux et la Déclaration des droits de l'homme est écrite. En fait, à ce moment-là, on pose vraiment ces principes qu'on essaye encore aujourd'hui de suivre. Cependant, malgré toute cette bonne volonté, j'ai dit qu'on essaye de suivre, ne faites pas cette tête, c'est un idéal, on veut aller vers ça. Il faut donc créer un nouveau système fonctionnel pour éviter que le pays parte dans le chaos.
De nombreuses formes de gouvernement vont apparaître et disparaître avant qu'un système finalement soit adopté plus durablement. C'est toutes ces générations de républiques, de choses comme ça.
C'est ça, c'est ça. Effectivement, les députés du tiers-État ainsi qu'une fraction volontaire du clergé et de la noblesse se réunissent en assemblée constituante et créent la première constitution française. La nouvelle structure politique est basée, là aussi, sur un nouveau principe, la séparation des pouvoirs, l'égalité et la souveraineté nationale. Donc, les députés ont défini les bases de la nouvelle société, mais il n'existe toujours pas de véritable système politique. Pour cela, ils créent une assemblée législative pour assurer le gouvernement de l'État. Mais attention, cette assemblée est nullement représentative du peuple. Ses membres ne sont même pas élus. En fait, ce sont principalement les membres de la haute bourgeoisie. Cet état de fait provoqua pas mal de mécontentements et d'insurrections, comme la Commune de Paris. Et donc, balancier inverse, suite à ces événements, on crée le suffrage universel direct pour élire les membres d'une nouvelle assemblée qui s'appelle cette fois la Convention nationale. Cette convention assurait le législatif. Elle forma un conseil exécutif de 6 membres, mais qui va rapidement évoluer et être également corrompu vers ce qu'on appelle le directoire. Donc ce système politique, ces systèmes politiques dont je viens de parler, était basé en fait sur ce qu'on appelle le suffrage censitaire. En fait, le cens, c'est un impôt. Donc ça veut dire que seuls les plus riches pouvaient participer, ceux qui payaient le cens.
D'accord. Et donc, ça ne marche encore pas, tout ça?
Pardon. Non, effectivement, ça ne marche pas. C'est le coup d'État du 18 Brumaire. C'est étrange, en fait. Tous ces gens qui se disent défenseurs d'une démocratie, d'une république, en arrivent toujours à donner les pleins pouvoirs à une personne unique. Et le revoilà, le héros charismatique. Revoilà le dictateur. C'est Napoléon Bonaparte. Et comme vous le savez, dès qu'il aura reçu son commandement, et grâce à une trop grande confiance des institutions, il deviendra empereur.
Alors, ce qui paraît contradictoire, puisqu'à cette époque, on écrit les premières constitutions pour éviter justement la prise du pouvoir par une seule personne.
Et oui, effectivement, en France et avant en Angleterre ou aux États-Unis, qui possèdent la première des constitutions, la constitution permet en fait de créer une notion démocratique d'égalité de traitement pour tous les citoyens. Afin d'éviter une concentration de pouvoir, en fait, elle est conçue de manière à créer un régime politique avec des pouvoirs séparés.
Et donc, si on applique la théorie de la séparation des pouvoirs, cette théorie de séparation des pouvoirs, mais le citoyen, quel est son rôle dans tout ça?
Eh bien, il est régulièrement consulté, il peut se prononcer. Il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est ce qu'on appelle le suffrage indirect. Comme aux États-Unis, vous vous rappelez peut-être, lors de la dernière élection, celle du président Obama, les commentateurs nous ont donné de multiples explications pour essayer de rendre intelligible le fonctionnement très très compliqué de ce suffrage indirect avec des grands électeurs. Chacun va voter pour son grand électeur en fonction de ce qu'il a annoncé. Enfin, c'est toujours compliqué, quoi.
Oui, mais ça veut donc dire qu'on vote pas pour élire directement son dirigeant.
Non, effectivement, dans ce cas-là, on n'élit pas directement son dirigeant. Alors, j'ai cherché un exemple de démocratie beaucoup plus directe, donc complètement l'inverse. Et je vous ai trouvé l'exemple suisse. Dans ce pays, en fait, le peuple entier a toujours le dernier mot. S'il le faut, il a un droit à référendum sur toutes les décisions du Parlement. Et il a aussi un droit d'initiative pour proposer de nouvelles lois. Donc vous avez peut-être entendu parler de c'est ce qu'on appelle les votations. Donc c'est un joli mot français qui pour nous est complètement tombé en désuétude, mais que les Suisses maintiennent et en usage encore. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont très souvent aux urnes donner leur avis pour tout un tas de questions. Alors nous, on en a entendu parler pour l'histoire des minarets, des choses comme ça. Mais voilà, en fait, ils sont consultés très, très souvent.
Il faudrait habiter en Suisse, en fait, pour pouvoir nous exprimer peut-être un petit peu plus souvent. C'est vrai que les référendums, il n'y en a pas non plus des masses en France, quoi.
C'est sûr, mais après, il y a quasiment des élections chaque année et des taux de participation pas très élevés. Donc, c'est aussi une façon de pouvoir s'exprimer que d'aller voter.
Effectivement, dans toutes ces démocraties, en fait, l'abstention, c'est-à-dire l'absence de vote, est de plus en plus forte. Mais il faut la différencier en fait du vote blanc, qui est le fait de ne voter pour aucun des candidats ou aucune des propositions dans le cas d'un référendum, ou du vote nul, qui est un vote non valable en fait. Traditionnellement, on assimile le vote blanc et le vote nul, c'est une des règles de notre droit, mais il n'est fait aucune distinction en fait entre quelqu'un qui met une feuille blanche, un document avec des signes différents, peu importe, de reconnaissance, les bulletins qui seraient tombés de leur enveloppe même, ou avec des mentions, des commentaires, etc. Tout cela font partie des suffrages dits non exprimés.
Mais ça change avec les élections européennes. Là, on va commencer à pouvoir voter blanc. Et donc, voilà. Si on met un papier blanc ou une enveloppe vide, ça sera décompté à part.
Voilà. Que là, effectivement, les nuls et
les blancs sont comptés en même temps.
Voilà. C'était un peu... effectivement. C'est un peu aussi mon regret, je suis assez d'accord. Au regard de ce petit historique, vous comprendrez bien que pour moi, il est inconcevable de ne pas voter. Voter nous lie les uns aux autres en tant que citoyens et citoyennes. En participant à une élection et en donnant son point de vue, nous contribuons en fait au bon fonctionnement de notre démocratie. Le fait d'exprimer notre accord ou notre désaccord avec nos dirigeants indique que le système politique peut assumer des points de vue différents et résoudre nos divergences. En s'abstenant de voter, nous brisons le lien entre chacun des citoyens et sa communauté. Voter sert aussi à protéger nos libertés. Un système démocratique ne peut survivre que si les citoyens qui la composent considèrent le processus politique comme un devoir et une responsabilité. Bref, rendez-vous aux urnes dimanche. Et comme disait je ne sais plus qui n'ira pas voter perdra son droit de râler.
Ouais, pour ceux qui entendent, pour ceux qui entendront que la rediffusion en deuxième semaine, donc ça sera après les municipales, rassurez-vous, vous pourrez voter dans quelques semaines aux européennes. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ?
Alors, je vous propose un petit clin d'œil à des systèmes politiques un peu différents du nôtre, on va dire, le système soviétique avec Rushian.
Isn't no monopoly of common sense.
Actu,
elle
et lui. Et voilà, c'est déjà la fin.
Et oui. Merci Guillaume, merci Anne-Marie.
Merci à
vous. On fait tous une
tête,
on est triste.
On est triste.
On est triste de vous laisser, donc voilà. On va vous souhaiter une bonne après-midi.
Une bonne soirée, si c'est mardi. Voilà.
Et puis, on vous dit à bientôt.
On va retrouver la pêche pour vous trouver des nouveaux sujets pour la prochaine fois.
Non, mais voilà, c'était différent.
C'était varié.
Il y avait plein de choses. Il y avait un peu
d'histoire, comme toujours.
D'instruction civique, de choses plus légères.
Certains de nos fans vont être tristes. Pas de sexe aujourd'hui. Et... Bon, c'est comme ça, il y a des fois.
T'aurais pu nous en trouver du sexe dans la politique.
Dans la politique, malheureusement, souvent, il y en a.
Bon, allez, un petit générique et c'est fini. Merci à tous. Et
à bientôt.
Actu,
elle
et lui.
Actu,
elle et lui.
Elle,
lui. D'actuel
et lui.